Chapitre 14. Dernier coup de pinceau. Quoiqu'il fût tard lorsque Mandelbert quitta la maison de M. Tyrold, il n'alla pas directement à Beech Park. L'amitié, l'estime et la reconnaissance le conduisirent d'abord chez le docteur Marchmont, qui le félicita sincèrement de l'heureux succès de ses désirs, en soupirant toutefois du souvenir des tristes expériences sur lesquelles il avait fondé ses conseils. Trompé deux fois dans ses plus chères espérances, il avait jugé de toutes les femmes par les épreuves qu'il avait faites personnellement. Lorsque les faits viennent à l'appui d'une prévention réduite en système, la sagesse et la vertu ne suffisent pas toujours pour défendre de la partialité. Le jour suivant, les Westwind se présentèrent à Essrington. Ayant entendu dire dans le comté de Devonshire que Sir Hugh était totalement ruiné, ils avaient hâté le retour. Ils trouvèrent Edgar seul dans la salle. Ayant appris de lui que la rumeur publique était fort exagérée et que la vérité se réduisait à une gêne passagère pour éviter de toucher à ses fonds, le bon père Westwind en fut si joyeux qu'il serra cordialement la main d'Edgar en le remerciant d'avoir dissipé une erreur qu'il affectait si vivement. Mais lorsqu'Edgar, se fondant sur son intimité avec la famille de M. Tyrold, dont il avait été le pupille, voulut lui faire accepter le remboursement de ce qu'il avait déboursé pour son tuteur, M. Westwind lui répondit presque avec humeur qu'il ne souffrirait point que ni lui, ni tout autre, soit qu'il fût ou ne fût pas le pupille de M. Tyrold, montra plus de zèle et de respect que lui pour le frère de Sir Hugh. « Et Hal, ajouta-t-il, pense comme moi. » Et c'est ce qu'il vous fera bientôt voir, d'une manière dont vous ne vous doutez pas, je vous en donne ma parole. Au reste, c'est là mon opinion. » Il prit ensuite son fils à part et lui dit brusquement à voix basse. « Comme cette jolie fille dont nous étions si épris tous deux à Southampton a joué ce vilain tour après la rencontre de son vieux lord, je crois que vous feriez parfaitement bien de prendre sa sœur. Elle est presque aussi jolie qu'elle et ne se donne point tant d'air. Ce sera d'ailleurs une preuve de respect pour mon vieux et digne ami dans le moment de son adversité. Et c'est exactement ce qu'il a fait pour moi quand j'y étais jusqu'au cou. Car s'il ne m'avait pas prêté les 1000 guinées dont je vous ai parlé, lorsque pas un de mes proches ne voulait m'en prêter 100, j'aurais été coulé à fond avant que vous vinssiez au monde. Allons, Hal, dites-moi votre pensée, oui ou non. N'allez pas tâtonner, car c'est ce que j'aborde. Parlez franchement. Je ne prétends pas gêner votre choix, mais je vous dirai sans cérémonie que si vous ne prenez pas votre parti dans l'instant, je cesse pour la vie d'avoir bonne opinion de vous. Je ne peux pas souffrir l'incertitude, ce n'est pas faire les choses noblement, je ne puis pas dire que j'aime cette manière-là. » L'apparition de Lavinia débarrassa pour le moment Henri, et l'air de satisfaction modeste qu'elle montra en les recevant fit sur le père et le fils une impression favorable. Mais l'empressement du premier ne pouvait pas souffrir de délai. Et lorsque Sir Hugh entra dans la chambre, Henri, ayant enfin donné son consentement, M. Westwind fit la demande de Lavinia pour son fils. Sir Hugh accueillit sa proposition avec joie. M. et Mrs. Tyrold la reçurent favorablement, mais avec un peu d'inquiétude, et Lavinia avec sa timidité naturelle, mais sans déguiser qu'elle espérait trouver dans cette union le bonheur. Ce qui était connu de Sir Hugh ne tardait jamais à être su de toute la maison, quelques prières qu'on pût lui faire, et malgré sa propre envie de garder le silence. Eugénia, au fond de la retraite qu'elle voulait garder pendant une semaine, fut donc informée de la nouvelle transaction, et la joie qu'elle en montra autorisa Edgar à solliciter la publicité de son prochain mariage. Ces heureux événements éclaircirent la sombre mélancolie de la généreuse Eugénia. « Le bonheur n'est pas fait pour moi, dit-elle, mais je jouirai de celui des autres. Je me regarde dès aujourd'hui comme ayant passé l'âge où l'on joue dans ce monde un rôle actif. Je m'amuserai à voir représenter ce que j'aime. Pour me distraire dans ma solitude, j'ai déjà commencé à écrire mes mémoires. » Et elle leur en communiqua l'introduction suivante. Section première. Amis lecteurs, ce n'est point une beauté coquette, environnée d'adorateurs et enivrée de leur encens, qui va te raconter ici l'histoire de ses conquêtes. Ce n'est point une beauté prude, fatiguée d'hommage, ou qui déplore la nécessité de la résistance. Le destin ne m'a point permis d'être vaine ou cruelle. Ici, dit-elle, je placerai mon portrait, et ensuite le reste de mon introduction, ou adresse à mes lecteurs. Ô vous, jeune beauté, fière de vos charmes et de l'admiration générale, dites-moi si à ce prix vous voudriez jouir de ma fortune. Quelle est celle, dites-vous, qui, pour échapper à la plus cruelle calamité, accepterait ma fortune et mes difformités? Et vous, grand de la terre, puissant et magnifique seigneur, n'imputez point à la vanité naturelle de mon sexe mes regrets d'être privé de la beauté, ni mes lamentations sur mes difformités. Leur source est dans votre jugement et vos goûts. Vos humiliantes railleries m'ont fait déplorer mes infortunes. Le prix que vous attachez aux charmes extérieurs m'a appris à en connaître la valeur et votre duplicité m'a prouvé que vous considérez tout le reste avec indifférence. » Camilla tâcha de la dissuader d'une occupation qui lui rappelait des idées et des souvenirs affligeants. Mais elle assura que ses réflexions contribuaient à la tranquilliser et à lui former un plan pour le reste de sa vie. Edgar obtint la permission d'informer Sir Hugh de son nouvel engagement. Mais la joie du baronnet fut tempérée quelque temps par des doutes. « Mon jeune ami, lui dit-il, dans le cas où vous ne sauriez pas encore bien positivement à quoi vous en tenir, et comme vous pourriez encore changer d'avis, ce qui vous est déjà arrivé une fois, j'aimerais autant qu'avant de m'en parler, vous eussiez pris le temps d'être bien sûr. Ces hauts et ces bas ne valent rien pour ma goutte. » Mais lorsqu'il fut bien persuadé, « Dans toutes nos infortunes, dit-il, c'est justement cette circonstance que j'aurais choisie, parce qu'elle me rend plus heureux que je ne l'ai jamais été, à l'exception d'une fois pour la même cause. Ce qui a tourné, Dieu sait comment. J'espère qu'aujourd'hui il n'en sera pas de même, car il ne me reste plus à présent qu'à payer toutes mes dettes et retourner à Clèves. Ce que je ferai avec grand plaisir, car il est un peu gauche pour un homme de mon âge de n'avoir pas une maison en propre. » Le souvenir du changement de sa situation, depuis l'époque où il avait fait les préparatifs des noces de Camilla, lui arracha un soupir qui affecta sensiblement Edgar. Il supplia son oncle futur de lui permettre d'avancer la somme nécessaire pour le rétablir tranquillement dans cette maison. Mais Sir Hugh refusa d'y consentir jusqu'au moment où Camilla vint appuyer cette requête et permit à Edgar de demander, en son nom et au sien, à être marié, conformément aux premiers arrangements, dans la maison de Clèves. Le baronnet ne put résister et on fit rapidement tous les préparatifs de sa réinstallation et des deux mariages. « Eh bien, leur dit Sir Hugh en les comblant de caresses et de bénédictions, voici le plus plaisant de l'histoire. Ma chère petite Camilla, à qui j'ai donné et repris toute ma fortune, est précisément celle qui m'offre la sienne dès qu'elle en a une. C'est elle qui replace sous mon toit ma tête chauve après que je l'en ai, comme on peut dire, chassée. Ce qui est une chose aussi curieuse pour nous autres pauvres ignorants mortels que si mon frère l'avait prêché dans un sermon. Ces chances de la fortune doivent être considérées, dit M. Tyrold, comme les meilleures leçons que les hommes puissent recevoir. Ceux qui ont aidé les humbles et les pauvres par des motifs de bienfaisance désintéressés trouvent souvent parmi eux des amis utiles dans les vicissitudes perpétuelles de notre fragile situation. Il n'y a plus qu'une chose, autant que je puis voir, reprit le baronnet, qui m'embarrasse un peu et à laquelle j'ai déjà songé quelquefois pour trouver un moyen de m'en délivrer. Aussi ai-je imaginé un projet qui ne me semble pas trop mal. Car voici Lavinia qui va épouser le plus ancien ami que j'ai au monde, c'est-à-dire son fils, ce qui est la même chose. Et ma chère petite fille, qui va être mariée au plus digne gentilhomme du comté, sauf sa première escapade, dont je suis bien sûr qu'il n'avait pas formé le dessein, c'est pourquoi je n'en parlerai plus. Et Indiana, qui a pris pour mari un de ses jeunes capitaines, dont je ne saurais dire grand-chose, mais c'est très excusable dans une fille qui n'a pas beaucoup de tête, ce que je considère toujours avec indulgence, la mienne n'étant pas absolument des meilleures. Et Eugénia, la pauvre enfant qui est déjà veuve, Dieu merci, ce que je crois pouvoir dire sans péché, relativement au pauvre jeune défunt qui n'était pas des nôtres selon ce que j'ai pu voir, excepté par son intrusion parmi nous, ce qui n'importe guère à présent qu'il n'y ait plus. Car Eugénia n'étant point une beauté, comme Clermont l'a dit à peu près, elle a probablement supposé qu'elle ne devait pas être trop difficile, ce qui est assez ordinaire aux jeunes filles et même aux jeunes garçons pour ce qui est de cela. car sur ce que j'ai pu apercevoir dans ce monde, il me semble qu'un savant aime tout comme un autre qu'une fille soit jolie. « Mais, mon cher frère, lui dit M. Tyrold, vous ne nous expliquez ni votre embarras, ni votre projet. Eh bien, je veux dire que je suis un peu embarrassé de voir qu'Indiana oublie la pauvre Miss Margland pour ce qui est de l'inviter à aller vivre avec elle, ce qui toutefois ne dépend peut-être pas d'elle seule, car tous ces jeunes capitaines n'aiment pas trop, en général, avoir autour d'eux de vieilles filles. Non pas que je prétende savoir au juste son âge, que j'imagine être au moins la cinquantaine, mais cela ne nous regarde pas. Voici donc ce que je pense. C'est dans le cas où le docteur Orborn et elle voudraient se marier ensemble. Mon cher frère, croyez-vous qu'ils en aient jamais eu l'idée ? Non pas que je sache, mais Indiana n'ayant plus besoin de Miss Margland, ni Eugénia du docteur, ni moi, Dieu le sait, besoin de l'un et de l'autre, que pourrais-je en faire si je ne les marie pas ? Le docteur est allé en ville pour faire imprimer ses papiers et je l'ai prié de ne pas se presser, car je ne suis pas trop disposé pour le moment à écouter des conversations savantes, quoique pourtant, quand il est ici, il ne dise pas grand-chose. Il tire seulement ses tablettes pour écrire ce qui lui passe par la tête, à ce que je suppose, et on ne peut pas dire qu'il soit fort amusant pour ce qui concerne une compagnie. Au demeurant, quoi qu'il ait dit que je suis un sot, c'est à quoi je fais fort peu d'attention, car ce n'est la faute de personne, excepté de la nature, à qui nous n'avons pas le droit d'en faire des reproches. Et quant à son petit grain de vanité, je ne lui en veux pas non plus, car un savant, n'ayant pour tout bien que sa science, il est assez naturel qu'il la fasse valoir autant qu'il lui est possible. Quoi qu'il en soit, s'ils voulaient se marier ensemble, je ne puis pas dire que je ne leur en saurais pas bon gré. Toute la difficulté que j'y trouve, c'est l'aversion qu'ils ont l'un pour l'autre. Et c'est là, mon cher frère, le point sur lequel je voulais vous consulter. Car alors, nous serions tous pourvus et cela m'ôterait un grand poids de l'esprit. Au jour heureux fixé pour le retour à Clèves, Sir Hugh reprit possession de son manoir hospitalier au milieu des tendres félicitations de sa famille et des joyeuses acclamations des pauvres du canton. Le lendemain, M. Tyrold donna la main de Lavinia au jeune West Wynne et le docteur Marchmont les maria. Edgar, enivré de son bonheur, dégagé de tout nuage, reçut son épouse de la même main et la même voix lui en assura la possession définitive et durable. Un petit nombre de pages contiendront facilement ce qu'il me reste à dire pour compléter le tableau de la jeunesse. Indiana fut plus heureuse dans son excursion que ces sortes d'expéditions ne le sont d'ordinaire. MacDercy était homme d'honneur et aurait pu prétendre ouvertement à l'épouse qu'il désirait s'il avait su expliquer sa situation et ses espérances. Le lord Holernay, qui joignait à la bienveillance le discernement et la générosité, veilla sur la conduite de son parent et fit jouir les nouveaux mariés d'une honnête aisance. La profession de MacDercy l'obligeant de passer une partie de sa vie en résidence dans des quartiers, Indiana, lorsqu'elle fut rassasiée des têtes à tête, regretta l'absence de l'ancienne adulatrice de ses charmes et l'invita, à la grande satisfaction de Sir Hugh, à venir demeurer avec elle. L'habitude d'être flattée sans cesse en avait fait naître dans son faible esprit le besoin presque indispensable. Et sans cette circonstance, elle aurait facilement oublié les soins de Mistress Margland, dont elle ne voulut plus se séparer. Lavinia passa avec son aimable époux un mois, tantôt à Clèves, tantôt à Essrington, et suivit le bon Monsieur Westwind dans le Yorkshire, où il faisait sa résidence. Elle gagna de plus en plus, comme tous les caractères vertueux, l'estime et l'amitié de sa nouvelle famille, et trouva dans son mari un contraste frappant avec Clermont-Lynmer, qui démentait toutes les hypothèses de l'éducation, comme le lord Holernay, sage, raisonnable, plein d'esprit et de discernement, par opposition au fougueux et inconséquent MacDercy, démentait celle du préjugé national. Élevés par le même précepteur, les mêmes maîtres et dans la même université, avec la même dépense et les mêmes occasions de toute espèce, Clermont n'acquit que des vices sans instruction, et Henri se fit admirer par son esprit, ses talents et ses vertus. Lionel, livré dans les premiers temps à toutes les passions, et calmé depuis par l'exsérédation qu'il s'était attirée, fut maintenu par l'infortune dans le repentir. Et quoiqu'une sentence ignominieuse, rendue contre la complice de sa faute qu'on avait surprise avec un autre, lui laissa la liberté du retour, lorsque ses parents, jugeant sa punition suffisante, le rappelèrent, il revint plutôt comme un homme condamné que comme un homme absous. La perte de ses espérances, la douleur d'un long exil, avaient totalement abattu son courage et changé son humeur. Manquant également de fermeté pour voir ou pour éviter ses anciens camarades, il sollicita et obtint un emploi qui le conduisit dans un pays étranger, où ses parents l'invitèrent à rester jusqu'à ce qu'il eût entièrement oublié ses habitudes et ses anciennes relations et que le temps en eût fait, avec le secours de l'adversité, un nouvel homme. Sir Hugues acheta une commission à Clermont qui choisit la profession des armes, beaucoup moins par amour pour son pays que pour déployer plus avantageusement les grâces de sa personne sous l'habit militaire. Mistress Alberi fut une des premières qui vinrent féliciter Camilla. Elle avait trop d'esprit pour laisser voir quelque dépit de l'erreur que son jugement avait commise relativement au moyen d'attacher Mandelbert. Elle avait aussi le cœur trop bon pour ne pas se réjouir sincèrement du bonheur de sa jeune amie. Mistress Lissine, qui l'accompagnait dans sa visite, confessa qu'elle était fort déchue de ses espérances et très malheureuse. Elle n'avait pas, disait-elle, moitié autant de liberté que chez son papa. Elle regrettait amèrement de s'être mariée et aurait voulu n'y avoir jamais songé. Les domestiques la persécutaient en lui demandant sans cesse des ordres, et dès que quelque chose allait mal, c'est à elle qu'on en demandait la raison. Quand elle voulait sortir, le cocher prétendait toujours que ses chevaux n'étaient pas en état de faire des courses si longues. Quand on se mettait en route, on s'adressait toujours à elle pour savoir ce qu'il fallait emballer. Si elle était absente à l'heure du dîner, son mari se plaignait qu'on mangeait tout froid ou réchauffé. Si elle avait une fantaisie, il la blâmait toujours. Et enfin, elle s'était aperçue que ce qu'elle avait désiré comme un état d'indépendance était un véritable esclavage. Elle trouva que sa maison la forçait d'en prendre tout le soin, que ceux qu'on appelait être sa maîtresse se bornaient à la surveillance et à la fastidieuse administration d'un ménage, que le privilège d'une femme mariée consistait à devenir la propriété d'un autre à qui elle accordait légalement le droit de la traiter à sa fantaisie, et comme elle n'avait été décidée dans son choix ni par l'affection ni par le respect, elle trouvait dur d'être réduite à la soumission lorsqu'elle avait cru s'assurer l'indépendance et aux embarras de la vie domestique sans en goûter les douceurs. Mistress Mittin parvint à capter si complètement la faveur de M. Desnel que, dans la ferme persuasion qu'elle lui épargnerait une bonne moitié de ses dépenses annuelles, il l'épousa. Mais son ami, M. Clyke, fut dépouillé, en retournant à Londres, de l'argent qu'il avait gagné si déloyalement. Le premier soin d'Edgar fut d'acquitter toutes les dettes auxquelles Camilla avait quelque part et d'avancer à Lavinia sa portion de la petite réserve qui avait été accumulée et destinée à ses deux sœurs. Henri ne voulait pas la recevoir, mais M. Tyrold savait que la fortune d'Edgar lui permettait cette action généreuse et il appuya la proposition. Sir Sedley Clarendel reçut ses 200 guinées sans répugnance, mais avec surprise, et douta s'il devait se réjouir d'être échappé aux chaînes de l'hymen ou regretter la charmante femme qu'il avait perdue. Sir Hugues ne voulut point souffrir qu'un autre que lui se chargeât d'acquitter les dettes de ses deux neveux, ni l'avance de son ancien ami M. Westwin. Il rappela tous ses anciens domestiques et les récompensa libéralement des témoignages de leur affection. Il assura une forte pension au vieux Jacob et se chargea de récompenser le postillon dont le zèle actif avait sauvé ou délivré Eugénia. Le prisonnier et sa femme, devenus d'honnêtes paysans, établis dans le hameau voisin de Beech Park, furent des premiers à venir féliciter leur bienfaiteur. On envoya chercher la petite Peggy et on la plaça de manière à lui préparer un sort heureux. Edgar saisit toutes les occasions de se lier avec le Lord Holernay et eut la satisfaction de voir Camilla devenir la meilleure amie de Lady Isabella Ayrby, qui avait pris tant de soin d'elle au fort de ses tribulations. Melmont avait reçu le billet de Camilla à temps pour prévenir l'imprudence dans laquelle le perfide Bellamy voulait entraîner Mistress Burlington. Il avait renoncé à la vengeance dans la crainte de compromettre la réputation de sa sœur, et la prompte mort de Bellamy l'avait délivré de la crainte des récidives. Mrs. Burlington, violemment affligée, s'était séquestrée du monde. Des dettes d'honneur qu'elle n'avait pas le moyen d'acquitter la poursuivirent dans sa retraite. Elle y fut en proie à la douleur, au repentir et à la honte. Elle ne s'était pas, depuis assez longtemps, écartée du bon chemin pour ne pouvoir pas aisément le reprendre. Elle y fut ramenée par le malheur et la réflexion. Elle se repentit sincèrement de sa conduite vis-à-vis d'Eugénia, elle détesta son aveuglement et n'hésita point à implorer son pardon. Eugénia persista quelque temps à vivre dans la réclusion. Le nom et le souvenir de Bellamy la faisaient toujours frémir, mais elle retrouva bientôt la paix de l'innocence. Les remords de Mrs. Burlington lui firent encore mieux apprécier la félicité d'une conduite irréprochable, et ce fut pour aller consoler l'amie repentante qui l'avait offensée qu'elle se décida à sortir de sa retraite. Melmont, qui savait depuis longtemps apprécier son mérite, rechercha sincèrement, mais avec plus de honte et de regret que d'espoir, la faveur qu'il avait précédemment acceptée avec répugnance. Mais Eugénia résista. Elle n'avait plus le courage de former un engagement, plus de confiance dans les serments, plus d'espoir de bonheur. Cependant, à la longue, le rare caractère de Melmont, la conformité de ses goûts et du tour de son esprit, décidèrent les Taylors à seconder ses désirs lorsqu'ils virent l'ascendant qu'il avait sur Eugénia. L'approbation de ses parents, jointe à sa propre inclination, fit cesser ses incertitudes et elle trouva dans la reconnaissance et l'affection sincère de Melmont le bonheur présent et l'oubli de ses anciennes souffrances. Eugénia aimait une fois, l'était pour toujours. Le baronnet fut enchanté de voir Eugénia heureuse lorsqu'il n'espérait plus qu'elle pût jamais jouir du bonheur et sut un très grand gré à Clermont de la requête qu'il lui présenta de concert avec Eugénia relativement au docteur Orborn. Ils convinrent de lui assurer à l'instant même un sort qui le mit en état d'aller où bon lui semblerait vivre dans l'aisance et se livrer à ses études et à ses occupations favorites. Melmont pria M. Tyrol, l'ami du docteur, de vouloir bien fixer le traitement qu'il convenait de lui faire. Les Tyrol reçurent, dans le bonheur de leurs enfants, la première récompense de leur vertu. Sir Hugh vit tous ses désirs si complètement satisfaits qu'il lui fut presque impossible de songer à aucun projet, se bornant à cette maxime prudente et fondée sur son expérience personnelle qu'il répétait journellement à la nouvelle génération qui croissait autour de lui. Évitez soigneusement les malheurs de votre oncle, les dangers et les tentations qui pourraient résulter des prétentions de vos héritiers en ligne collatérale. Ainsi furent terminées les longues inquiétudes, les doutes et les chagrins d'Edgar et de Camilla. Sans avoir éprouvé une calamité ou même un seul accident inévitable, peu s'en fallut qu'ils ne fussent les victimes des deux extrêmes, de l'imprudence et du soupçon, de l'imprévoyance naturelle à la jeunesse qui marche sans guide et de la méfiance acquise par une douloureuse expérience. Edgar devint le confident de toutes les pensées de son épouse et sa gaieté, qui n'était plus dangereuse, fut pour ses amis le garant de son bonheur. Edgar, fidèle à sa promesse, résidait avec elle alternativement à Etherington, à Clèves et à Beech Park. Il l'éloignait rarement de la vue de ses parents ou de son cher oncle, et le docteur Marchmont, convaincu de son innocence, de sa franchise, de la pureté de son cœur, trouva que ses vertus, ses erreurs, sa vivacité et son désespoir étaient un tableau de la jeunesse. Et regrettant la fausse opinion que lui avaient donnée deux expériences malheureuses, il reconnut l'injustice, l'ignorance et la présomption de son système. Car qu'y a-t-il dans ce monde d'aussi varié que l'homme et dont on puisse si peu juger par son semblable ? Fin.